Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, suspects ou coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Ils racontent comment ils ont fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Je suis Amandine Bégaud, journaliste à RTL et M6, et voici l'histoire incroyable d'Antoine Derrier, qui a miraculeusement échappé à la noyade le 30 mai 2008. Il n'avait alors que 8 ans. Lors de cette nuit tragique, sa mère a été assassinée par son compagnon, Cédric Ornec. Après avoir commis son crime, le beau-père réveille le petit Antoine qui dormait dans la chambre juste à côté et l'emmène sans un mot jusqu'au lac voisin. Sur le ponton, dans la nuit froide, il le pousse, le maintient sous l'eau et le laisse pour mort. Mais quelques heures plus tard, l'enfant, flottant sur le ventre dans l'eau glacée, est découvert par un promeneur. Il est ranimé et survit miraculeusement. Sauvé, il va dénoncer son bourreau. Dans cet épisode, la voix du crime est Alexandre Varro, son avocat à l'époque. C'est lui qui va défendre le petit miraculé, lui qui va réussir à le convaincre de surmonter sa peur et de venir témoigner contre celui qui a tenté de l'assassiner, son beau-père, Cédric Ornec. Bonjour Alexandre Varro. Quand vous avez pris connaissance de cette affaire, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Au tout début, on sait très peu de choses, parce que quand je suis saisi de ce dossier, il n'est même pas encore réveillé. Donc il y a un mystère. Il y a un enfant qu'on a trouvé avec un corps réfrigéré à un niveau où il ne devrait pas vivre normalement, mais qu'on est en train de sortir du coma, et on se demande qui est cet enfant. À ce moment-là, on ne sait pas du tout que sa mère a été assassinée. Donc il y a un infanticide, une tentative d'infanticide. On ne sait pas encore qu'il y a derrière un féminicide. Le mot n'existait pas, mais la chose existait.
À l'époque, oui. Ce petit garçon, c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il est plongé dans une eau glacée pendant plusieurs heures. Comment expliquer qu'il ait survécu ?
Dans son malheur, il a une chance incroyable. L'assassin l'emmène au bord de l'eau. Il le plonge dans l'eau. Il porte des gants. L'assassin, il a pris des gants pour ne pas laisser de traces. Il le plonge dans l'eau, l'enfant se débat, naturellement. Très vite, il cesse de se débattre. Et l'assassin en déduit qu'il est noyé. Il le lâche, et le corps va dériver sous le ponton, parce qu'il est allé sur un ponton. Et il ne le voit plus. Et il en déduit que le corps a coulé, parce qu'il ne le voit plus. Et en fait, les vêtements, un peu gonflés d'air, vont le maintenir à la surface de l'eau. Et l'hypothermie, ce lac est très froid. Il est plongé d'un coup dans l'eau. Les poumons vont se bloquer, ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans les poumons, et c'est ça qui va le sauver. Un mélange d'hypothermie, de bouée naturelle avec les vêtements. Et il va tenir comme ça pendant un temps qu'on ignore. On ne sait pas combien de temps. Il est resté entre le moment où on le plonge dans l'eau et le moment où il est trouvé par le chien d'un promeneur. On pense peut-être 20-30 minutes, mais en fait c'est peut-être une heure ou peut-être 15 minutes, on ne sait pas. Il a été trouvé, là encore, une chance incroyable. Il y a un promeneur qui devait aller à la chasse avec des amis. Il a loupé le départ. Et donc, comme il a un chien qui faut quand même faire trotter un peu, il va faire le tour du lac avec son chien de bon matin. Et c'est le chien qui va trouver l'enfant, qui aboie, il va voir ce qui se passe. Il tombe sur cet enfant, il appelle, les secours arrivent très vite. On le prend en main, et on l'hospitalise. Il n'est pas mort. Je crois qu'assez vite, on sait qu'on va le sauver. Mais on ne sait pas qui c'est du tout. On ne sait pas qui c'est du tout parce qu'il n'y a aucun avis de recherche puisque la personne qui pourrait s'inquiéter de son absence, sa mère, est morte.
Quand est-ce qu'on découvre qui c'est ?
48 heures après, à peu près. Il me semble que c'est de cet ordre-là. Et parce que très vite, il va parler. Et puis, il y a son grand-père, qui est le maire du village, qui est un homme connu dans la région. Et puis, très vite, les choses vont s'associer les unes aux autres. On va s'inquiéter de l'absence de sa mère. Il va voir le réveil de l'enfant. Des images qui vont faire qu'on va le reconnaître, en parler à son grand-père. Bref, après, en quelques heures, tout explose.
Antoine se réveille, il raconte tout de suite ce qui s'est passé ?
Non, non, il sait pas. Il sait pas. Il dit qu'il sent qu'il se passe quelque chose de pas normal, qu'il entend du bruit. Mais les extrêmes violences qui vont avoir lieu dans la pièce à côté, juste contiguë, lui, il est dans une petite chambre à côté, dans un lit superposé, il est couché, il y a beaucoup d'éclats de voix, mais pour lui, c'est tout. Il a le souvenir qu'on vient le chercher, qu'on l'emmène, qu'on lui dit pas pourquoi, qu'on roule longtemps, qu'on roule au petit matin et qu'il comprend pas pourquoi, mais qu'il comprend qu'il se passe quelque chose qui est pas normal. Il se souvient qu'on lui parle pas. Pas un mot. Dans la voiture. On cherche pas à lui dire des choses rassurantes, ni des choses inquiétantes. Il est pas molesté. Il roule. Il roule, vers un endroit qu'il connaît, l'assassin. Et, à cet endroit-là, eh bien, il cherche à faire disparaître le témoin. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'a pas de contentieux avec cet enfant. C'est juste un témoin de sa présence ce soir-là. C'est évidemment totalement absurde. De toutes les manières, remonter sur sa présence, la présence de cet homme-là ce soir-là, c'était extrêmement aisé. Il y avait ses empreintes partout, il était en couple, un couple qui est en train de se déliter.
En train de se séparer.
Mais il était en couple depuis longtemps avec elle, enfin, il aurait été immédiatement la cible des enquêteurs. Voilà. Et l'enfant lui-même savait peu de choses, il a entendu du bruit, mais il n'a pas vu les violences.
Il ne savait pas que sa maman était morte. Il y a eu des photos à l'époque publiées d'Antoine et de sa maman. C'est un petit garçon comme il en existe des centaines, des milliers d'autres.
Évidemment, rien ne prépare un enfant de 8 ans à vivre une aventure comme celle-là. Il a déjà dans sa vie quelque chose qui est un petit peu hors norme, c'est que c'est un enfant abandonné par son père, qui n'a jamais voulu entendre parler de lui. Mais ça arrive, ça ne prépare pas un assassinat.
Ce couple, celui de sa mère donc, et celui de Cédric Ornec, l'ancien compagnon, ils sont en train de se séparer. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Quelle place Cédric Ornec a dans la vie d'Antoine à l'époque?
C'est quelqu'un, Cédric Ornec, qui est très bien accepté par la famille. Le grand-père d'Antoine l'aime bien. Le tient pour un garçon solide, sérieux, peut-être plus sérieux que d'autres qu'il a vu passer. Et travailleur, enfin, le jugement n'est pas négatif. C'est pas quelqu'un dont on se méfie. Pas du tout. Il est le compagnon, un compagnon bien accepté par Antoine, bien accepté par le grand-père, mais plus accepté par la mère d'Antoine, voilà, qui à ce moment-là veut changer de compagnon, qui est une femme dont on dira à l'époque des faits qu'elle a une vie assez libre, et elle lui expose depuis déjà un certain temps, mais apparemment il ne veut pas comprendre, et ce soir-là, la conversation prend une tournure un peu plus précise sur le fait que il faut qu'il fasse ses valises. Voilà, que c'est fini.
Il est immédiatement arrêté, Cédric Ornec?
Ah oui, il est arrêté très vite, sauf qu'il se cache au début et qu'il a convaincu une femme de l'aider à se cacher. Cette femme sera jugée, puis acquittée. Elle aurait pu aussi bien être condamnée, hein, mais elle a été assez touchante. Et on voit bien qu'elle avait été tout à fait manipulée, même si elle ne pouvait pas ignorer, parce que ça passait à la télévision, qu'elle accueillait chez elle quelqu'un qui était un harpé de justice, enfin un assassin, pour dire les choses clairement. Ce qui est incroyable sur la mentalité de Cédric Ornec, c'est que on sait que le soir même, alors qu'il est, il cherche à se cacher, qu'il se range chez cette femme, qui est une ex, pour dire les choses simplement, il va avoir des relations sexuelles avec elle, il a tué ou cru tuer le petit le matin. Il a tué sa mère dans la nuit, ça ne le pousse pas à la prostration ou au remords, manifestement. Et ça a évidemment beaucoup impressionné les jurés de quelqu'un qui continue une vie totalement normale. Il a bon appétit dans tous les domaines.
Par perversion, à votre avis, ou parce qu'il n'a pas forcément conscience de ce qu'il a fait?
On ne peut pas supposer qu'il ignore qu'il a tué. Ça, il le sait. Et avec beaucoup de violence, et ça n'est pas un accident. Il a voulu éliminer le témoin, donc oui, c'est manifestement quelqu'un qui a un trouble affectif. Il est sans réaction.
Les experts parleront de coups de colère, mais bien sûr disproportionnés, mais C'est ce qui a pu se passer, d'après vous, cette nuit-là ?
Oui. Alors, il y a beaucoup de nuances. C'est quelqu'un qui, lui, voudrait rester en couple avec elle. Peut-être l'aime, tout simplement. Elle ne veut pas de lui. Il y a une dispute. On a bu, on a fumé de la drogue. Il y a des choses qui potentialisent, hein, qui libèrent les énergies et les pulsions. Il va avouer dans la reconstitution, il y a un coup de poing. C'est un homme extrêmement massif, fort. Probablement un autre. Elle va valdinguer au travers de la pièce et sa tête va cogner une espèce de radiateur. Le choc doit être assez brutal, mais elle n'est pas morte. Et elle est d'autant moins morte qu'il le sait, qu'il le voit et qu'il l'achève. Donc son désir, à ce moment-là, il a la possibilité de se dire « là, ça dérape ». Et il peut faire plusieurs choses. Il peut se dire « ça dérape, je m'en vais ». C'est un peu le réflexe normal du coup de folie. Ou « ça dérape, il faut que je la sauve ». Et il appelle les pompiers. Il assume, mais il la sauve. Lui, il prend un coussin et il l'achève en l'étouffant. Donc, ça dérape, certes, mais ça dérape jusqu'au bout. Et il va, après, dans un temps qu'on ignore, probablement très rapidement, dans la pièce à côté, chercher le maître des gants, tout d'abord, ce qui va être extrêmement important pour établir la préméditation. Maître des gants, chercher le petit, lui dire on va se promener, et Antoine pose pas de questions, parce que cet homme, il le connaît très bien. C'est une espèce de beau-père pour lui. Et il est gentil avec lui. Et c'est juste bizarre.
C'est juste bizarre. C'est ce qu'il vous dit au début quand vous commencez à discuter avec lui, avec Antoine. Oui, il a réalisé ce qui s'est passé, que oui, son beau-père a tué sa mère.
Il n'a aucune idée. Il n'a absolument aucune idée. Il voit son beau-père qui vient un peu au milieu de la nuit, lui dit « on y va ». Alors, on ne sait pas au mot près ce qui a été dit, mais on sait qu'il n'est pas menaçant du tout. Et qu'il l'emmène en voiture. C'est petit, 8 ans quand même. Donc à ce moment-là, il se dit c'est bizarre, mais pas une seconde, il n'imagine qu'il va se passer quelque chose pour lui. Il trouve juste que c'est vraiment une drôle d'idée. Et même, je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait dit pourquoi maman n'est pas là. Pourquoi lui tout seul? Je pense que tout simplement, il ne se pose pas la question. Et dans le silence de la voiture, qui est long après, parce qu'on roule pendant 30-45 minutes, hein, c'est long. Peut-être qu'il est un peu somnolent, un peu interdit. En tout cas, il n'y a pas d'idée qui se font jour. Il ne se dit pas qu'il va lui arriver ce qui va se passer quelques temps après.
Dans ce dossier, je le disais, vous êtes l'avocat d'Antoine. C'est vous qui avez l'idée de le faire témoigner à la barre pour le procès ?
C'est absolument évident qu'il faut qu'il témoigne. Il faut que, d'abord, c'est pas vraiment un témoin au sens juridique. Il est la victime, on juge deux crimes. On juge celui commis contre la mère, qui sera considéré comme un meurtre et non pas un assassinat, c'est-à-dire
sans préméditation.
Donc la peine est moins importante. On a considéré qu'il n'était pas venu pour tuer et que c'est dans un enchaînement de colère qu'il l'a tué. Bien qu'il l'ait tout de même achevé avec le coussin, mais c'est une même action et d'une manière juridiquement assez orthodoxe, la cour d'assises considérera qu'il s'agit d'un meurtre. Pour Antoine se pose la question, et c'est là que va être l'essentiel de la discussion devant la cour d'assises, de savoir si c'est un assassinat, c'est-à-dire, y a-t-il préméditation ? Et Antoine devait être là pour témoigner de ce qui lui est arrivé, et là comme victime, et témoigner de ce qui est arrivé à sa mère, bien sûr. Et il est le seul présent, en fait, il est le seul à avoir des choses à dire. Donc sa présence était indispensable. J'en avais parlé auparavant, avec le président de la cour d'assises, l'avocat général, et je les avais rassurés sur sa volonté d'être présent.
Il souhaitait être là.
Oui, un petit peu de mise en scène. Oh, il souhaitait pas être là comme une espèce de colère, j'ai des comptes à régler. Il était bien petit encore. Mais il y avait bien le sentiment, et puis avec son grand-père qui s'occupait de lui...
Qui est devenu son tuteur légal.
Oui, il y avait bien le sentiment que... voilà, c'était un devoir à remplir. Et donc il a été là, il a été formidable. Il était même étonnant de précision et d'émotion contenue. Il n'y a pas eu de sanglots, de cris, de... Il a délivré son récit, l'ambiance de la cour d'assises qui est quand même très particulière, hein, surtout pour un enfant, surtout au moment où on juge cet assassin, qui est le vôtre. Tout ça devait le mettre dans une situation un peu d'hypnose quand même. Hein. Alors ça pouvait tourner à l'effondrement, chez lui ça a tourné à une espèce de rigueur très forte dans le récit de ce qui s'était passé, minutieux, froid, clinique. Voilà.
Mais vous l'aviez préparé ?
Je l'avais préparé sur ce qui était l'ambiance d'une cour d'assises. Je lui avais fait des dessins pour lui montrer comment est-ce que c'était disposé, parce que ça inquiète tout le monde. Généralement, on a vu des feuilletons, plutôt des procédures américaines qui n'ont pas grand-chose à voir. Et donc, je lui expliquais où il serait, où seraient les autres, où serait l'assassin. Qui lui poserait des questions, dans quel ordre, quel genre de questions. Donc oui, je les préparais précisément. Je pense que son grand-père, alors lui, c'est pas un professionnel du monde de la justice, mais a dû le préparer psychologiquement aussi à tout ça. Et on était convenu que, c'est moi qui lui avais proposé, je ferais écran entre lui et l'assassin, pour qu'il n'ait pas ni la tentation de le regarder, ce qui pouvait le faire s'effondrer, ni à supporter son regard.
Physiquement, vous vous êtes mis entre lui.
Physiquement, je me suis mis entre lui et l'assassin. Il ne pouvait pas se voir. Et je faisais un écran noir, d'une robe noire, entre l'un et l'autre. Et à aucun moment, sauf peut-être quand il est rentré dans la salle de la cour d'assises, mais quand il est venu pour témoigner, à aucun moment ils n'ont pu se voir. Ça a été assez bref, hein, peut-être 20 minutes comme témoignage, mais intense.
Il est dans quel état après ces 20 minutes ?
Toujours très hiératique. Il dit rien, il repart, puis on se sépare à ce moment-là, parce que lui, il repart, mais moi, je reste. Donc, je ne peux pas décrire ce qu'ont été les heures qui ont suivi.
Mais ce n'est pas un petit garçon qui s'effondre en sortant de la salle d'audience.
Non, et je sais par son grand-père que dans ces mois-là, ça n'a jamais été ça.
Il faut rappeler qu'à l'époque, il a 10 ans. Ce procès, il s'ouvre 2 ans, quasiment jour pour jour, après le meurtre de sa mère, cette tentative d'assassinat. Ce que vous décrivez, on a quand même l'impression d'un petit garçon extrêmement solide, ou alors extrêmement bien entouré, peut-être les deux d'ailleurs.
Je pense qu'il est extrêmement bien entouré. Il a un grand-père qui est une espèce de modèle du grand-père qu'il faut avoir dans ces circonstances-là. Heureusement, elles sont rarissimes. C'est un homme solide, qu'on pourrait dire en employant des images éculées un peu bourrues. Mmh. C'est un grand, costaud, barbu, les pieds bien dans la terre, maire de son village, mais maire de son village sans être un homme politique. Et face à cette épreuve effrayante, c'est sa seule fille qu'on a tuée, c'est son seul petit-fils qu'on a tenté de tuer. Il est d'une solidité, voilà, j'imagine qu'il se dit, parce que c'est pas un homme qui se raconte, qu'il se dit qu'il a pas le droit de craquer, il a pas le droit d'être faible. Voilà, il est celui qui doit tenir droit debout. Lui, il parlera à la presse. La veille du procès, on a donné une conférence de presse pour s'expliquer sur sa présence à lui, à l'audience. Il sera constitué partie civile également, bien sûr. Les raisons de la présence de son petit-fils, la manière dont il abordait les choses, et il va tenir des propos étonnants parce que dans cette conférence de presse, comme lors de l'audience, il ne va pas d'une certaine manière accabler Horneck. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne reniera rien de ce qu'il pensait de lui dans le passé. Il dira ouais, c'était plutôt un type bien, c'était pas un type dont se méfier, c'était un type qui était sérieux, qui était travailleur, on n'avait pas à s'en plaindre. Après, rien de tout ça ne justifie quoi que ce soit, mais ça marque aussi la loyauté de cet homme qui ne cherche pas du tout à accabler.
Ni à se venger.
Non, et puis il n'y a pas besoin d'accabler. En fait, le seul enjeu du procès, c'est de savoir si il va être reconnu l'assassinat et non pas le meurtre, c'est-à-dire la préméditation pour le petit Antoine. Il n'était pas nécessaire d'être un très grand avocat pour obtenir qu'il soit condamné pour assassinat. Il l'a été pour l'assassinat d'Antoine, pour meurtre pour sa mère. Et il aura le maximum de la peine, avec, comme souvent, un tout petit delta sur la peine incompressible.
La peine de sûreté.
C'est-à-dire qu'il n'aura pas, avec la peine de sûreté, le maximum du maximum. Il aura beaucoup, hein, mais pas le maximum.
Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 18 ans de sûreté. Et au procès, il est comment ?
Assez froid. Il conteste la préméditation pour Antoine. Il explique ce qui s'est passé avec sa mère. C'est assez crédible ce qu'il explique. On n'a pas d'autre version, hein, donc il faut bien s'en contenter. Mais il n'y a pas de moment où on se dise non, c'est pas possible, c'est invraisemblable. Et dès la reconstitution, il a refait les gestes de l'étouffement avec le coussin, hein, qui sont des gestes épouvantables. Hein. Elle est en vie encore, elle aurait vécu sans ça. Hein. Donc là, il a eu quelques minutes où il pouvait se reprendre et où il ne s'est pas repris. Et il décrit une espèce d'affolement, de violence impossible à contenir parce que voilà, l'amour, l'incompréhension, bon, il n'émeut personne, hein. Il n'émeut personne, mais on comprend des choses qui ne sont pas toutes fausses.
Est-ce qu'il est troublé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand Antoine vient témoigner ?
Je lui fais dos, alors je ne peux pas raconter grand-chose de lui. Moi, je regarde Antoine.
De ce qu'on vous en a dit.
Je regarde Antoine et je ne le regarde pas lui. Lui, il écoute et je pense qu'il est resté très marmoréen, comme il l'a été dans l'ensemble du procès. Il exprime assez peu de choses. Oui, des regrets, mais des regrets dont on a l'impression qu'ils sont beaucoup des regrets de la situation dans laquelle il s'est mis, plutôt que des regrets de ce qu'il a commis. Peut-être la différence entre les deux n'est pas très claire pour lui. Il a un avocat qui fait ce qu'il peut et on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment pas un client facile et pas une situation facile. Il y a peu d'espace pour la défense. Donc il va tenter de soutenir que c'est un meurtre et pas un assassinat, mais c'était vraiment difficile à obtenir, il ne l'obtiendra pas. Et la peine, la réclusion à perpétuité, le meurtre d'un enfant, enfin, ça allait un peu de soi.
Je reviens à cette atmosphère qu'il y avait dans cette cour d'assises. Vous le disiez tout à l'heure, une cour d'assises, c'est toujours très impressionnant. Quand on fait rentrer comme ça un petit garçon de 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se tait ? Il y a un silence pesant ?
Oui, il y a un grand silence. Il y a toujours un grand silence aux assises avant qu'il se passe quelque chose. Il y a une ambiance un peu religieuse dans une salle de cour d'assises. C'est ce qui frappe la plupart des gens qui y rentrent. Déjà, souvent, ce sont des très grandes salles, donc on a un effet un peu cathédral. Ensuite, il y a essentiellement des gens mal à l'aise ou au moins des gens respectueux. Donc tout ça pousse au silence. Les gens avancent à pas feutrés. Se taisent ou tout au plus chuchotent et puis on a conscience qu'il se passe des choses qui sont lourdes de conséquences, hein. C'est pas une bagarre d'ivrogne dans un bistrot avec un œil au beurre noir, donc tout le monde est un peu pétrifié, certains parce qu'ils ont l'impression de vivre un moment d'histoire de leur métier, d'autres parce qu'ils sont émus, d'autres parce qu'ils vont avoir à juger et que c'est toujours difficile d'avoir à juger. Bref, il y a une ambiance d'une grande gravité. Je pense que c'est le mot le plus idoine.
Le 26 mai 2010, Cédric Ornec est donc, on le disait, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de cette peine de sûreté de 18 ans. Vous étiez satisfait, vous, en tant qu'avocat ?
C'est ce qu'il fallait. La satisfaction, ce n'est pas le mot que j'emploierais.
C'était juste.
Pas de joie. Il n'y a pas de bonheur, il y a juste on est là où on devait être. Voilà. C'est en fait que si ce n'était pas arrivé, alors là, ça aurait été épouvantable. C'était juste, ce n'était pas un exploit professionnel. C'était un moment professionnel fort, parce qu'accompagner un enfant, comme ça, c'est rare. Parce que cette famille, ce grand-père, était extrêmement touchant. Parce que j'ai été comme avocat de la famille, avocat de la mère que je n'ai jamais connue, rencontrée, qui a été tuée, et dont il fallait que j'essaye de m'approcher, comprendre qui elle était, comment ça avait pu arriver. Donc oui, on rentre un peu par effraction dans la vie des gens, il faut les comprendre, les aimer et savoir les restituer. Donc il y avait, oui, c'était un moment important de la plaidoirie, de faire en sorte qu'il soit là, qu'elle soit là, elle. Lui, on l'avait vu, mais qu'il fallait qu'elle soit là. Et puis qu'on comprenne quelle était cette famille, comment est-ce qu'un malheur pareil pouvait s'abattre tout d'un coup. Ce sont des gens qui habitent dans le nord de la Vendée, dans une zone extrêmement marécageuse. C'était une petite maison tout à fait isolée. On y voit surtout des oiseaux, des étangs. C'est un endroit qui est merveilleux, qui fait pas peur du tout. C'est pas du tout un endroit pour les crimes.
Antoine, il est présent à l'énoncé du verdict ou...
Non. Non, non. Antoine, il est venu déposer. Puis, il est reparti. Il aura des rapports indirects, autres, avec la justice. Parce qu'il va y avoir des procédures parallèles. Une procédure contre une compagnie d'assurance qui avait un petit peu oublié de nous dire qu'elle avait un contrat d'assurance qui garantissait ce genre d'événement et qui sera en définitive condamné à payer des sommes importantes à Antoine. Et c'est une bonne chose parce que on parle de gens qui sont gens modestes, c'est un peu exagéré, mais peu fortunés en tout cas, et qu'il ait un petit pécule, lui, pour démarrer dans la vie, c'était bien. Il y aura aussi une procédure autour de la question de l'autorité parentale à confier, parce qu'il a un père, c'est un enfant.
Il a un père, mais qu'il a abandonné,
père, il a
vous
un
disiez.
Père qui habite dans l'Est, qui s'est jamais occupé de lui, qui n'a jamais voulu s'occuper de lui, mais attiré par l'odeur de l'affaire judiciaire, tout d'un coup, le père se réveille et on croit comprendre qu'il prétend jouer un rôle. Parce que c'était l'odeur de l'argent.
Donc derrière, il faut se battre à nouveau, cette fois-ci, pour que finalement Antoine soit confié aux bonnes personnes.
Oui, il y a pas mal de choses pour lesquelles il faudra se battre autour de l'affaire criminelle.
Il n'est pas là à l'énoncé du verdict, mais quand on lui dit, qu'est-ce qu'il éprouve ? Du soulagement
C'est fini, et puis ça commence aussi, mais... Tous, dans cette situation, ont le sentiment d'un cycle qui s'achève. Voilà. C'est terminé et on va pouvoir maintenant passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si l'expression de psychologie de comptoir, faire son deuil, est une expression très adaptée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas terminé. Le meurtre de sa mère, ça sera jamais fini. L'absence de sa mère ne sera jamais terminée. Mais lui, il sait que maintenant, il faut aller de l'avant. Il n'y aura plus des rituels judiciaires, des étapes judiciaires. Il n'y aura plus le juge d'instruction à voir, le moment de l'ordonnance de renvoi, le moment de la chambre de l'instruction, le moment de la cour d'assises. Tout ça, c'est fini. Voilà. Donc, maintenant, il faut faire avec l'absence, avec la présence généreuse et rassurante de son grand-père. Et il faut devenir un homme, mais c'est une partie de sa vie que je n'aurais pas dû à connaître.
Vous n'avez pas eu de nouvelles d'Antoine depuis ?
Non, j'ai eu des nouvelles de son grand-père, parce que c'est un homme formidable et qu'il n'aurait pas imaginé de couper les ponts comme ça. Maintenant, j'en ai plus parce qu'il n'y a plus de raison d'en avoir. Mais le temps qu'on termine, notamment les procédures et ces tristes histoires d'argent, on a eu des rapports réguliers. Je prenais à cette occasion-là des nouvelles d'Antoine. Il m'est arrivé, je crois, une fois ou deux de lui parler. Je sais qui grandissait bien, qui n'avait pas de choses inquiétantes psychologiquement.
Son grand-père parlait d'un petit garçon normal qui jouait au basket, allait même à la piscine.
Oui, il était étonnamment normal. Il faut bien qu'on ait quelques grâces comme ça quand le malheur s'est abattu sur vous. Lui, alors je ne sais pas si on peut parler d'un bonheur qui l'a rattrapé, mais en tout cas d'une capacité de vivre et de vivre un peu comme les autres.
Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, en tant qu'avocat de cette histoire ?
La force de cette famille, de ce qu'il en reste, qui réussit à traverser l'épreuve avec une dignité incroyable. Sans accabler l'assassin, sans faiblir néanmoins, en menant les procédures, tout en étant extrêmement attentif à l'équilibre de cet enfant, des gens d'une force et d'une dignité qui, bien sûr, ont forcé le respect de tout le monde. Alors, les accompagner, je ne peux pas dire que j'ai eu la chance de les accompagner, on n'a pas de chance, voilà. J'ai eu le devoir de le faire. C'était, oui, du début à la fin, étonnant, et c'était il y a 10 ans. Je n'ai pas eu à réouvrir le dossier pour venir vous voir. Tout est gravé.
Ça marque.
Ah oui, ça marque. On n'oublie pas, ça fait partie des choses que j'emporterai avec moi. Les avocats n'ont pas vraiment le droit d'avoir de la mémoire. On n'écrit pas des livres sur ces affaires. Il y a le secret professionnel qui ne cesse jamais. Il y a des choses que je peux vous raconter aujourd'hui et d'autres que je ne vous raconte pas. Il y a des choses qu'on voit qui relèvent de l'intime et puis il y a d'autres choses qui ont été tellement exposées qu'on peut les évoquer. Mais oui, il y a des affaires qu'on oublie parce que ce sont des affaires et puis d'autres qu'on n'oublie pas parce que c'était un peu autre chose qu'une affaire.
Ça marque en tant qu'avocat, ça marque en tant qu'homme, j'imagine aussi.
Oui, bien sûr. C'était facile pour moi de voir ce que c'était qu'un petit garçon de 8 ans. J'ai plusieurs enfants, 3 garçons. Donc je le voyais réagir en sachant bien comment réagit un enfant de 8 ans. Et oui, on ne se débarrasse pas de ça, mais on ne cherche pas à s'en débarrasser d'ailleurs.
Cette affaire, on le disait, elle a eu lieu en 2008, jugée en 2010. En 2019, alors qu'il y a eu tous ces débats, ce Grenelle autour des violences conjugales, est-ce qu'il en aurait été autrement, à votre avis ?
Bien sûr, dans une dispute d'un couple, il peut arriver des choses. Pendant des décennies, le crime passionnel a été une circonstance atténuante et bien des gens étaient acquittés pour des crimes passionnels. Aujourd'hui, on est dans une mécanique qui est plutôt exactement inverse. C'est devenu plutôt une circonstance aggravante et même une circonstance légalement aggravante. On est pourtant dans cette logique-là. On a à ce moment-là affaire clairement à un féminicide, exactement comme on les décrit aujourd'hui. Il y a tous les ingrédients. Un couple qui se sépare, un homme violent, la présence de l'alcool, de la drogue qui libère cette violence à ce moment-là. Pourtant, la chose existe, elle est aussi fréquente qu'aujourd'hui, le mot n'existe pas, mais l'intérêt public ne va pas se focaliser du tout sur le meurtre de la mère. Il ne sera question pratiquement que de l'enfant.
Parce que c'est un miraculé aussi.
Parce que c'est un miraculé, parce qu'il y a eu au début un mystère, parce qu'on ne sait pas qui il est. Donc, on parle de l'enfant du lac parce que cet enfant n'a pas de nom. Donc, il est nommé ainsi parce qu'on l'a trouvé dans un lac. Mais on voit bien quand même une différence dans le temps. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt pour le meurtre de la mère ne serait pas le même. Néanmoins, malgré l'horreur de l'enfant aussi, on se serait arrêté un petit peu plus sur ce que ce meurtre conjugal signifiait.
Merci beaucoup, maître.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré à l'affaire Cédric Ornec avec le témoignage d'Alexandre Varro. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site RTL, rtl.fr. À très bientôt.